Vous qui êtes le patron d'une entreprise française, que répondriez-vous si une petite voix vous glissait à l'oreille ?
Allons, n'hésite pas. Maintenant que tu as touché tes subventions, tu fais un plan social, tu vires tes ouvriers et tu délocalises, ni vu ni connu, tes usines en Roumanie. Ça devrait te faire gagner quelques millions de plus cette année. Avec le bouclier fiscal, ça n'est pas négligé. Alors là, je dis non. C'est parfaitement légal et immoral, mais ça risque de coûter très cher à la société. C'est tout le monde qui serait perdant, à savoir moi et mes actionnaires. Vous croyez qu'ils sont idiots ? Ce serait une faute de délocaliser en Roumanie alors que la main-d'œuvre chinoise nous coûtera 10 fois moins cher.
C'était un message de l'union des grands patrons qui ne sont jamais assez gavés et qui se permettent de culpabiliser des salariés qui sous-payent.
Ben, je me réveille, zut. Moi qui croyais pouvoir disposer d'une fenêtre pour me suicider, eh ben c'est encore raté. Pour une fois que France Télécom ne faisait pas la fiche des médias, c'est Thalès qui prend possession des ondes. Du coup, j'appelle Robert, mon pote paysan, qui y pense aussi depuis un moment. Il y a René, le boucher qui boit la tasse depuis plusieurs années. Il y a Jean-Loup qui a l'URSSAF sur le dos. Sophie, hyper douée, mais qui a dû fermer boutique toujours à cause des tracasseries administratives de l'URSSAF et des caisses de retraite, dont elle ne verra pas la couleur. Joël, quant à lui, las d'attendre, il a choisi une autre option. Un tour du monde à la rame. Lui, son sentiment d'identité nationale, il s'est assis dessus depuis longtemps. Du coup, je me demande si le suicide étant banalisé, je vais peut-être entrer dans la résistance. Allez, ciao, bonne journée.
Je suis en train d'écouter l'émission là sur le gros connard là de médecin qui va voir le mec pour lui dire que l'entorse ça se voit pas à la radio, alors ça se discute. Ensuite, qu'il a pas d'entorse, etc. Mais putain, il peut pas le fracasser. Mais moi, il vient chez moi le mec, mais il n'en ressort pas. C'est pas avec une entorse qui ressort. Il finit à la moitié fracassé, c'est le chien qui le bouffe. Je vais vous dire, hein, des mecs comme ça, hein, les serviteurs du capitalisme rampant.
Oui, bonjour, Anne de Saumur, pour continuer sur l'émission des contre-visites médicales, pas très reluisantes, il est vrai. C'est le principe de l'émission, et je ne peux pas le remettre en cause, mais c'est quand même un peu bizarre. Les patrons sont tous des voyous, et les salariés, forcément, des gens absolument pas tire au flanc, jamais. J'ai pas dû bien regarder autour de moi, quand même. Parce que j'en ai vu, moi, des gens qui se refilent cette adresse d'un médecin bien large, sur les arrêts médicaux. Mais probablement un effet de mon imagination. Voilà.
Bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission sur les contrôles médicaux et en fait, moi, je tiens à témoigner. Je suis en arrêt, un arrêt qui, selon mon directeur, est totalement injustifié. Pour être plus précise, je suis en congé maternité, mais vois-tu, mes petites filles sont décédées à la naissance. Et donc, je suis chez moi, mais je ne pouponne pas. Et ça, mon directeur ne comprend pas du tout ce que je fais chez moi, comment j'utilise ce temps libre. Lui, il aimerait que je revienne travailler. Seulement, la notion de deuil, de traumatisme, tout ça, ça le dépasse. Et je pense que s'il pouvait m'envoyer un médecin pour me faire revenir vite fait bien fait au travail, ben il le ferait. Donc, je suis là et pour une fois, j'ai le système derrière moi et je suis contente. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je probablement réenchaîner une grossesse. Je ne lui ai pas dit, sinon il va se mettre très 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 en colère. Voilà, merci Daniel de ponctuer mes après-midi de temps libre. Ça m'aide à faire la part des choses.
Salut. Vous avez été bien méchant avec les collaborateurs de Medivéris. Ce ne sont pas seulement des employeurs ou des docteurs. Ce sont certainement des hypocrites, mais ce sont surtout des militants. Des militants efficaces qui obligent les autres à travailler plus pour qu'eux-mêmes puissent gagner plus. L'hypocrisie se limitant à dire « si je ne le fais pas, un autre le fera ». Et nous, les militants de l'autre bord, qui pensons que travailler bien pour vivre bien est la seule manière d'éviter la fin du monde, que faisons-nous ? On va boire un coup à Perpignan, au Lisboa, place Rigaud, jeudi 5 novembre à partir de 18h30.
Eh ben bravo, on y sera. Enfin, ceux qui sont dans le coin, ils seront dans ce repère de là-bas si j'y suis. Merci pour vos messages, surtout le premier qui est particulièrement réussi. Ça nous donne envie de faire le... Faudrait qu'on fasse le concours, le prix du meilleur message laissé dans le répondeur de là-bas si j'y suis un de ces jours. Parce qu'il y en a quand même qui sont absolument formidables, d'autres bouleversants, émouvants. On a pas mal de messages au sujet de Paul Carpital. réalisateur Paul Carpita qui est décédé. Et on l'avait effectivement reçu dans la basse, j'y suis il y a bien longtemps, au sujet de son film « Rendez-vous des quais » qui avait été, on l'a rappelé ces jours derniers, mais trop tard, censuré pendant 35 ans. Et à ce sujet, je vous signale un très bel hommage qui lui a été rendu ce matin dans le 7-10 par Caroline Cartier. Un quelque chose de court, mais très beau. C'est un bel hommage à Paul Carpita. Alors aujourd'hui, écoutez, vous allez découvrir, vous en découvrez tous les jours, évidemment, avec la basse j'y suis, mais là, quand même, vous allez apprendre que fighting solve everything. Vous saviez ça? Que le combat sauve tout? Sauve de tout? Oui. Nous, on était surpris d'apprendre ça. Enfin, on a d'abord eu cette idée, puis on a voulu aller vérifier si c'est vrai. Ça donne le reportage d'aujourd'hui, Pascariello, avec des combattants, des vrais, des warriors, des gars qui en ont, et qui sont beaucoup plus touchants, c'est le cas de le dire, qu'on ne le pense. Il s'agit de lutteurs. J'hésite, parce que ce sont pas des lutteurs, ce sont pas des boxeurs, ce sont pas des karatékas. C'est des gars qui font du combat libre, le free fight. Ces combats dont on dit qu'il n'y a pas de règles. Alors on va voir qu'il y en a quand même quelques-unes. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'enfoncer votre doigt dans l'œil de votre adversaire. Voilà, ça c'est pas bien, c'est interdit. Le coup de boule aussi, vous savez, boum, le coup de boule, ça c'est interdit. Mais à part encore une ou deux choses, tout le reste, vous pouvez y aller. Ça se joue très souvent à l'intérieur d'une cage. Et c'est interdit en France, mais là, on va aller à Glasgow, où c'est autorisé, et on va apprendre donc le sens de la phrase « Fighting solve everything ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale verte de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG, le repère des amis de là-bas si j'y suis de Briouze dans l'Orne se tiendra comme tous les derniers mercredis du mois le 28 octobre à 17h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit à Briouze. Cherchez la table du canard. À bientôt, salut les AMG.
Salut Daniel, salut les auditeurs de là-bas si j'y suis. L'association Mais qu'est-ce que tu fabriques de Landerneau dans le Finistère organise du 28 octobre au 4 novembre une semaine de lutte contre l'invasion publicitaire. Au programme des débats, du théâtre, des expositions, des projections de films documentaires, tous ensemble on va rhabiller la pub pour l'hiver. Pour toutes les infos, vous pouvez consulter notre site fabricasso.free.fr. Ciao.
Bonjour les amis de là-bas si j'y suis. Je vous signale que demain, 27 octobre, a lieu le repère d'Aix-en-Provence, près de la Rotonde, au bar Le Festival, à 19h30. Le thème choisi sera demain soir l'Afghanistan. Merci.
Bonjour, c'est Jean-Marc de Martigues. Il y a une semaine, je vous laissais un message vous parlant d'un mouvement social chez les facteurs de Martigues. Une semaine après, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, Sébastien est toujours en grève de la faim. Ce sera son 13e jour ce lundi. Le bureau est majoritairement en grève depuis 15 jours. Là, on pourrait se dire qu'avec un rapport de force comme ça, les négociations ont pu avancer. Elles n'ont pas avancé d'un centimètre. La Poste affiche un mépris, une arrogance et une morgue sans commune mesure. Ils vont même jusqu'à reconnaître qu'ils ont eu tort dans la restructuration, qu'ils ont commis des erreurs. Ils vont même jusqu'à dire que les sanctions, finalement, telles qu'elles se présentent, ça s'est pas passé de façon très correcte non plus. Ils le reconnaissent, mais ils s'en foutent. C'est nous les patrons et on vous emmerde, on bougera pas. On attendra que vous creviez à petit feu, mais on sait qu'on gagnera à la fin. Ce mouvement est assez emblématique de ce qui se passe en France, dans tous les mouvements sociaux, que ce soit dans le privé ou dans le public. Une impasse qui pousse des gens à certaines solutions extrêmes. À bientôt.
La prochaine rencontre du Café Repère d'Alès, dans le Gard, aura lieu comme d'habitude, au Vintage Bike Café, route du Pont de Grabieu, face à Monsieur Meuble, le mercredi 28 octobre, à 19h. Comme d'habitude, Farid nous y accueillera. Un mercredi donc.
Ouais, ici c'est Michel de Quimperlé. Oui, je suis en train d'écouter justement sur la fameuse, les affaires sur les fraudes sociales. hein, les fraudes aux arrêts maladie, mais j'aimerais aussi que l'on parle quand même des fraudes énormes que sont les trous noirs de la finance et les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des bateaux au large, enfin nos bateaux de l'armée là, qui servent pas à grand chose à Brest là, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre au large de Jersey et de tous les trous noirs de la finance là, hein, et pour demander à ce qu'on restitue l'argent qui a été volé pendant des décennies au reste de la société. Ça commence à bien faire, taper sur les plus faibles, moi j'en ai marre d'entendre ça, c'est le leader syndical, j'en ai marre d'entendre qu'on tape sur les plus petits, et que jamais on se tape au gros. Salut Daniel, et continue comme ça.
C'est quoi les 3 B?
Baston, baise et...
Vous n'avez pas envie de lui toucher les fesses dans ce cas-là?
À qui?
Au combattant. Ben non, mais vous me parlez d'union.
Ben non, mais mental. Ah. C'est mental, on pense aux mêmes choses. Non, ben non, vous avez pensé à quoi là? Dans notre société, on n'a plus l'habitude d'avoir peur. Mais l'être humain, il est fabriqué pour affronter la peur, pour se défendre en cas d'agression dans la forêt ou dans la jungle. C'est une certaine façon de souffrir. Voilà. Moi, c'est une certaine façon de souffrir. C'est pour ça que le sport de combat me plaît, quoi.
Vous dites quoi, là?
C'est bizarre qu'on me pose autant de questions. C'est tout.
C'est bon. Vous ne dites pas sur qui je vais tomber. Vous dites pas... Non. On va aller de la salle,
ne
dites pas.
Non, c'est bon. Ladies and gentlemen, this professional 77-year-old fight is sponsored by Screaming Rhino, Coldplay and 100 Cars. So now, welcome your fight. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Pascal, Pascal Yellow. Fighting solve everything. Fight number two, arriving from Tokyo. Is 70.
James s'appelle l'organisateur.
Ok, 20 minutes, we wait for you, ok? Ok, see you, bye bye. Tu vois, je viens vous chercher dans 20 minutes et on va la poser.
D'accord. Il sera là ou pas, lui?
On va voir là-bas. Je comprends rien quand il parle très très mal. En plus, il parlait à une autre personne en même temps. On va aller s'asseoir.
James, on est avec Brice et Bruno.
Là, on est à l'aéroport donc de Glasgow, on vient juste d'arriver. Et on attend les organisateurs qui vont venir nous chercher pour nous amener directement, normalement, à la pesée, qui s'effectue dans un club de sport de Glasgow.
Okay, good evening everybody. Welcome to the Hilton Glasgow. This is respect number two.
Good, good.
Alors voilà, nous voilà à Glasgow, et pourquoi aller si loin pour des gens qui vont se cogner de si près? Bien parce que l'art, le sport, comme vous voulez, qu'ils pratiquent, est interdit en France. Et oui, Ultimate Fighting, libre combat, eh bien c'est interdit, le combat libre est interdit en France. De quoi s'agit-il? On va le savoir de plus près. Vous connaissez cette histoire des lutteurs de toutes obédiences, de toutes disciplines, qui ont décidé un beau jour de voir laquelle de ces disciplines était la plus efficace, la plus extraordinaire, la plus violente, la plus retenue, la plus... Et ils ont mélangé toutes ces techniques et on est arrivé au free fight. Alors, ça se pratique dans certains pays du monde, mais pas dans le nôtre. Les autorités, le gouvernement a décidé d'interdire ces combats en France. Mais pas l'entraînement. Alors, on s'entraîne et puis on va combattre ailleurs. Et par exemple, cet après-midi-là, à Glasgow, en Écosse. Et Pascal a voulu suivre deux de ses lutteurs, Driss et Samy, avec leur entraîneur James. Alors, Driss, Samy, James, ça fait des noms de feuilletons. Non, c'est trois petits gars d'Avignon qui vont ce jour-là se battent. Mystère des lutteurs, mystère du combat, mystère de ce spectacle, très ancien mystère. Et très souvent, effectivement, ce sont des gens d'origine populaire, modeste, qui à la fois sont ces combattants et sont ces lutteurs, ces boxeurs. Je pense à Marcel Cerdan, à Sugar Robinson. On a les champions de ses artères. Et aussi le public. Parce que là, ça va se dérouler au Hilton de Glasgow. Et on s'est dit, ah là, il va y avoir un public riche de gens aisés qui vont assister à ce combat et à ces combats. Parce qu'évidemment, c'est toute une soirée. Et ben, c'est ce qu'on va découvrir. C'est extrêmement violent, ces combats. Ça se passe dans une cage et sur un ring qui n'est pas carré mais hexagonal. Découverte donc, on va suivre Pascal, Driss, James et Samy jusqu'à Glasgow et jusqu'à 16h sur France Inter. Fighting solve everything.
Glasgow? Oui, à Glasgow, ouais.
Ouais. Driss, oui.
Oui.
Parce que là, vous venez d'où? D'Avignon, c'est ça?
Non, là, on a fait
Avignon, Londres, Glasgow.
Vous faites des combats à l'étranger, en dehors de la France?
Voilà, c'est plutôt les pays anglo-saxons. Là, on a fait pour la première fois un combat au Maroc.
Parce que sinon, c'est pas possible en France.
C'est interdit, ouais.
C'est des combats, alors. Il y a tous les noms possibles, hein, pour ces combats, ouais, que vous allez faire demain. Combat libre, Ultimate Fighting, combat
non,
de guerrier.
Ultimate Fighting, c'est le nom d'une compétition. Voilà, c'est comme si vous me disiez la Coupe des Champions. Ou... Non, non. Le sport, c'est du MMA. Mixed Martial Art. Voilà, c'est le mélange de tous les arts martiaux.
En fait, c'est beaucoup plus libre dans les règles. C'est-à-dire qu'on a le droit de beaucoup plus de coups différents que dans la boxe, par exemple.
C'est du pied-point, genou. Dans certains pays, il y a les coudes, comme là ce soir. Ainsi que les frappes au sol.
Ça veut dire qu'on a le droit de taper au sol.
Au sol, des coups de poing et des coups de coude uniquement. Pas de coup de genou, pas de coup de pied.
C'est pas mal quand même, coup de poing, coup de coude.
Mais attention, c'est pas si simple que ça. Il faut être concentré du début jusqu'à la fin.
D'accord, mais il n'y a pas de round?
3 fois 5 minutes.
C'est très court.
C'est très long. Pendant 5 minutes, c'est un effort intense. C'est pas comme en anglaise où, par exemple, on va mettre 2-3 coups. Si on veut souffler, on accroche le gars, on souffle, ou alors on recule, on prend son temps. Là, non. Si jamais moi je veux me reposer, que je recule, le gars il va me foncer dessus. Donc c'est pendant 5 minutes, non-stop, effort intense. Debout, lutte et sol.
Bon. Voilà. On va voir ça. Ah. Avant un combat avant la prison, il y a abstinence complètement, j'imagine.
Bon, après, ça dépend de s'ils sont au poids, s'ils sont pas au poids. Mais par exemple, là, Bruno, là, il est en abstinence totale, on va dire. Hein. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu depuis presque 24 heures. Alors, on le voit, sa figure, il est très fatigué.
Bruno, il est un peu blanc. Bruno, vous pouvez juste me hocher avec la tête quand je lui pose une question? Non, même pas. Vous n'avez pas la force. Ah ouais, d'accord, ça fait cet effet-là de ne pas voir.
quand on fait une grosse déshydratation. Ouais.
Vous faites quoi?
Cadre.
Dans
une société de pneumatiques.
Vous avez un salaire à peu près de combien?
Ça varie, c'est aux alentours de 2000 euros.
Et vous, donc, ça fait combien de temps?
Bah en fait, j'ai commencé à la base par la boxe pied-point, c'est le kick et le full. Et mais je suis allé dans le club de James.
Pourquoi pas rester parce dans les armes?
On va dire que j'aime bien un peu la bagarre quand je suis dedans. Et j'étais frustré quand j'arrivais au contact d'être limité. Les mecs, c'est toujours « ouais, moi je suis plus fort qu'eux, plus fort qu'eux ». Ben, disons que là, quand on fait un combat comme ça, comme beaucoup de choses sont permises, donc là, on sait que si on a gagné, ben, on a vraiment gagné. Quoi. On cherche pas d'excuses. Voilà. Malgré que ça peut se jouer sur rien, hein. On peut rentrer un coup KO.
Vous arrivez déjà ça?
Ouais. J'ai fait un combat en Espagne où le gars, ben, il est très 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 marqué, à la limite de l'arrêt du combat.
Marqué, et, ça veut dire que vous lui donnez plein de coups?
Ouais, il était ouvert et tout ça, quoi. J'avais du sang sur moi et tout ça. Hein. Pendant que je lui mets un coup, il en envoie un autre et je le reçois au menton. Je tombe. C'est la vie. Voilà, tout simplement. Des fois, on tombe de haut. Aussi bien dans la vie que dans un combat, c'est pareil.
Comment je dois vous appeler dans ce sport-là? On peut dire combattant, c'est ça?
Combattant, bien sûr. Hein. Combattant. Hein, oui.
Et vous, James, ça fait combien de temps que vous avez ouvert votre club alors? À Avignon?
Ça fait 10 ans cette année.
Et ça a été, c'est apparu, je regardais à peu près au début des années 90 aux États-Unis.
93, c'est ça, ouais. Si vous voulez, il y a plusieurs organisations. Il n'y a pas de fédération mondiale, on va dire, de combat libre. Donc ce sont des organisateurs qui organisent des shows. Et certaines shows sont plus médiatisées, plus connues que d'autres. Et notamment l'Ultimate Fighting, ben, c'est le show le plus connu au monde. Quoi. Ils en font de partout dans le monde. Chaque UFC génère en termes de bénéfices dans les entre 30 et 40 millions de dollars par UFC. Ils en font un tous les un mois et demi.
L'UFC, c'est l'Ultimate Fighting
Championship.
Principal organisateur aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Ça a été d'abord créé dans les années 93, puis après ça a été racheté par des investisseurs, des gens qui n'avaient rien à voir avec le sport, mais qui avaient beaucoup d'argent. C'est notamment des propriétaires de casinos à Las Vegas qui ont acheté donc le groupe UFC et qui l'ont fait exploser. Quoi. Alors maintenant, ils ont la télé avec eux, ils ont ben, les médias, les combattants sont des stars. Ça a détrôné la boxe en termes d'audience et de même le catch. L'UFC, c'est une machine marketing. C'est une machine qui est fabriquée pour générer un bénéfice. C'est une société au même titre que ben, je sais pas, Renault chez nous. Ou, voilà, hein. Bon, leur business, c'est le sport, mais c'est ça. Quoi. Alors, dans le MMA, vous savez, il y a deux choses. Il y a les gens qui organisent et les gens qui combattent. Alors les deux mondes se côtoient, ce sont deux mondes tout à fait différents. D'un côté, il y a des businessmen, il y a les requins de la, on va pas dire de la finance, mais ils pensent qu'en termes de bénéfices et compagnie. Tandis que, et d'autre côté, ben, il y a les sportifs qui s'entraînent pour l'amour du sport, l'amour d'aller combattre, un peu pour l'argent aussi. Mais enfin bon, nous en France, on n'en est pas encore vraiment là. Petit serveur en boîte de nuit, ça doit mieux marcher avec les nanas que combattant de MMA. Aux États-Unis, peut-être pas. Parce qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ont vraiment une bonne presse parce que bon, ben, parce qu'ils passent à la télé, tout simplement. Quoi. Maintenant, nous, vous savez, dans un petit coin à Avignon.
Vous, tous les trois, en moyenne d'ailleurs, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 39 ans.
Bruno, 30. Et vous, Driss?
33.
33?
Ouais, ouais.
Since I became the light heavyweight champion, everyone knows my name.
Lyoto Machida is the new UFC light heavyweight champion.
I know in my heart that winning the belt was the easy part. To be a true champion, you must defend your title.
The karate master remains unbeaten.
What a tough riddle to crack.
Alors là, on arrive à la salle. Hi. Et là, on rentre dans la salle. Il va avoir lieu la pesée. C'est un gymnase qui est un petit club dans un quartier du centre de Glasgow. Là, il faut enlever les chaussures.
On va se peser parce que moi, tu rentres
pas. Les combattants sont relativement jeunes. Il y a 5 personnes qui attendent dans le gymnase qui ont dû se peser auparavant. Il doit avoir 25, 30 ans maximum. Ils attendent que les Français se pèsent dans une toute petite salle. En fait, les organisateurs filment en même temps les combattants et filment le moment où ils vont se poser. Ils filment avec un petit téléphone portable.
Bruno, go.
Bruno se déshabille. Et là, contrairement à Driss qui avait gardé son t-shirt, Bruno va tout enlever pour qu'il n'y ait aucun point en plus. Alors, on a Bruno qui va se poser. Driss, regarde. C'est vraiment le moment attendu. Ça va, il a beaucoup perdu. 78. 7.
Il est trop lourd de un peu plus d'un kilo. C'est normal, je savais.
C'est assez libre la posée. Bah, ça se fait un peu entre nous. Quoi.
Non, mais disons que les docteurs, si on leur dit qu'on se déshydrate de 4-5 kilos, qu'on se réhydrate de 4-5 kilos en 24 heures, ils vont nous dire vous êtes des fous. Mais bon, aux États-Unis, ils font ça couramment, en Russie aussi, au Japon aussi. Vous savez, après, il y a la théorie et l'expérience. Moi, je fais ça depuis 10 ans.
Donc, pas la peine de médecin.
On a des méthodes particulières pour se déshydrater. Hein.
Et là, Bruno va devoir perdre un kilo.
Ah, c'est vite fait. Hein.
C'est vite fait, ça prend combien de temps?
Une heure.
Un kilo, une heure.
Ok, then.
There you go.
One kilo.
Yeah, no problem.
Perfect. All right.
Les zones de balance, sinon, pour après le sauna.
Do you want to take the scales with you?
Yeah.
C'est, on va pouvoir prendre la balance en fait, du club pour aller au sauna. Allez, on repart avec un kilo à perdre. La balance sous le bras. Direction le sauna.
Ça va, Bruno?
Vous voulez que je vous prenne votre sac, Bruno?
C'est bon.
Moi, je suis super fière, je peux vous porter le sac quand même, une fille qui arrive à porter le sac à un garçon. James, comment ça va? Comment ça va? Vous avez l'air d'être pensif. Là.
Ouais, parce que je sais que perdre un kilo au sauna, ça va quand même pas être facile. Donc, je vois Bruno qui est un peu fatigué. Tout à l'heure, il m'a parlé, il était un peu fatigué, donc le visage creusé.
Parce que là, c'est un grand tout mince. Avec les joues un peu creusées, effectivement.
Demain, il va faire le double. Demain, on aura repris au moins 5 kilos.
Bah, ça veut rien dire, alors, ce système de peser.
C'est à celui qui sait le mieux le faire qui pèsera le plus lourd, quoi. En gros.
Le jour du combat.
Voilà, c'est ça.
Pas le jour de la pesée.
Ah non. Le jour de la pesée, tout le monde doit être au même point.
Ok, là, ce hôtel.
Il est 18h à Glasgow. Là, plus le temps passe, plus Bruno n'a toujours pas mangé ni bu, donc...
Il y aura moins à perdre comme ça. Sans rien faire, à peu près, une fois qu'on est commencé à être déshydraté, on perd à peu près 100 grammes toutes les 1h30 à peu près.
Bah là, justement, il y avait deux sportifs qui couraient. James se retourne.
Ah ben ouais, forcément, Bruno aussi.
Les deux garçons se sont retournés pour les observer. De dos, évidemment, parce qu'on les a vus arriver de face. Et de dos aussi, elles étaient jolies.
Il y a un truc qui dit... Quand il y a une jolie fille qui est de dos, je dis, j'aime pas te voir partir, mais qu'est-ce que j'aime te regarder t'en aller.
C'est la porte d'entrée du club de gym. Hein. Faut pas se méprendre, même si elle fait un drôle de son.
Tu vas voir comment ça se
passe.
Bon, je vais pas pouvoir vous suivre, mais James, est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Je vais voir comment on va faire la. Ben, je vais lui remplir le corps de lait pour hydrater la peau, pour écarter les pores. Ensuite, il va se couvrir au maximum. Il va mettre une sudisette par-dessus, comme un kawaii, quoi. Je vais lui boucher les entrées pour qu'il soit hermétique. Et il va faire des sessions on va voir entre 10 minutes et un quart d'heure dans le sauna pour qu'il transpire au maximum. Je le déshabille. Je l'essuie, je l'éponge, je le pèse. Si ça suffit pas, il refera 10 minutes ou un quart d'heure, mais je pense que ça suffira.
Tout habillé, c'est pour ça qu'on est venu avec un gros sac de vêtements.
C'est ça, voilà, tout à fait. Ouais. On va le couvrir au maximum, quoi. Pour qu'il soit vraiment, il va vraiment, vraiment, vraiment transpirer, quoi.
Non, c'est pas les séances de sauna en maillot de bain.
Non.
Ça va, c'est pas trop dur, ça, Bruno?
Ça fait 3 semaines que je fais le régime, je suis pas une heure après. Hein. C'est bon. Hein. Ça fait 3 semaines que je mange de la salade trois fois par jour.
C'est bon. Ça va. Bon, bah, bon courage. A tout à l'heure, hein. James, Bruno sont partis au sauna. Il a les joues toutes creuses et le teint un peu blafard, Bruno, il faut dire. Donc j'espère qu'il ne va pas s'évanouir en cours de route. On attend. Et là, le club de gym où on est, on a l'impression de rentrer dans une entreprise où tout le monde s'active. Quand on rentre, il y a un grand accueil avec des jeunes filles derrière des ordinateurs et des téléphones qui sonnent. Ensuite, vous avez un système de portique pour passer avec des badges qui... va reconnaître éternellement les membres automatiquement du club de gym. Petite entreprise du sport.
Vieille histoire, très très vieille histoire, le combat singulier, deux hommes qui se battent selon des règles ou selon une absence de règles. Et dans quel but et que représentent-ils? On voit ça partout, dans toutes les cultures, ou presque au monde, on retrouve ça. Dans toutes les représentations, les gravures, les témoignages, les écrits, les légendes, les contes, les sagas, les épopées, on retrouve l'histoire de ces combattants, les combats singuliers entre deux hommes. Alors ils sont porteurs de symboles, ils sont porteurs de valeurs, ils sont les représentants de tribus, de peuples parfois. Parfois simplement, ce sont deux pauvres types qu'on met à se battre avec la délectation, étrange délectation de voir des hommes se battre, s'affronter, parfois jusqu'à la mort. Les gladiateurs, c'était bel et bien le cas. L'historien Paul Venn a écrit et témoigné là-dessus à travers son travail. Et bien, ça continue. Cette histoire-là ne cesse pas, même si on donne des règles, des limites. Par exemple, les gars qui combattent dans ce MMA, ce Mixed Martial Arts, disent la boxe, c'est vraiment un truc de sauvage, parce que dans la boxe classique, la boxe anglaise, c'est la tête qui est visée, tandis que là, il y a d'autres parties du corps. Et par exemple, la boxe, eh bien, est interdite en Suède, alors que l'Ultimate Fighting, ou le MMA, si vous voulez, y est autorisé. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui est très, très mystérieux, très ancien, et qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Donc, une heure après, on attendait dans le club de gym. James vient d'arriver pour ressortir du sauna. Alors, James ?
Mais c'est bon, il fait le poids à 77,6 après une demi-heure de sauna et 10 minutes de pause. Il est un peu fatigué, mais ça va. Hop, ça c'est quand il s'est déshabillé.
Vous me montrez la photo où il s'est pesé tout nu, sur votre portable.
Ouais.
Dans le sauna. Là, quand il rentrait dans le sauna, vous l'avez pris en photo, il y va tout habillé. Hein.
Ah oui, oui.
À côté des autres personnes qui sont tout nus.
Voilà, c'est ça. Des fois, c'est des drôles de trucs, mais bon. Après, quand on est combattant, on a l'habitude, quoi.
Combien il a perdu de kilos ?
4 kilos et demi. 5 kilos, 4 kilos et demi, il est. Et puis hier, il était à 81,500.
Il a perdu 4 kilos et demi en un jour ?
17 en moins de 24 heures.
Comment il a fait ?
On fait un système de déshydratation avec l'eau, c'est-à-dire que pendant 8 jours, il va boire beaucoup d'eau, en fait, plus qu'énormément d'eau. Il va tourner entre 6 et 10 litres d'eau par jour. Donc il habitue son corps.
6 à 10 litres d'eau par jour ?
Il habitue son corps à éliminer. On rajoute du sodium, un petit peu plus de sodium que d'habitude. Et la veille, on coupe le sodium, il coupe l'eau. Et en fait, il continue à éliminer. Ça fait un effet de diurétique naturel, en fait. Et avec ça, on arrive à perdre jusqu'à 4-5 kilos. Et là, je lui ai donné la poudre pour réhydrater les bébés. J'ai donné, et là, il est en train de se réhydrater. Là, il prend la douche, en fait.
S'il y avait un médecin à côté de nous, il vous engueulerait. Hein.
Je sais.
Le combat commence avant le combat. Hein.
La pesée, c'est aussi dur que le combat, quoi. À la limite, eux, ils préfèrent combattre que de se faire peser, quoi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
et moi, j'ai l'impression, parce que tout à l'heure, bon, il n'y avait pas de médecin pendant la pesée, vous êtes obligé en tant que coach de vous improviser médecin.
Moi, j'ai l'habitude de le faire, ça fait 10 ans que je fais ça, mais là, c'était limite quand même à la fin. Là, ça va aller mieux. Là. On va le voir. Au fur et à mesure, vous allez voir ses yeux qui vont être mieux, ses joues qui vont se remplir. Je surveille beaucoup l'urine aussi.
Vous allez voir leur pipi ?
Eh bien, oui. Je travaille ça aussi. En fait, quand l'urine devient foncée, c'est que vraiment, il commence à être en déshydratation. Mais les Américains, par exemple, c'est impressionnant. Bon, après, ils ont leur méthode peut-être à eux. Nous, on déshydrate de 4, 5. Eux, ils déshydratent de 8, 10. Après, c'est peut-être un peu jouer avec le feu, quoi. Mes parents, ben, ils sont à la retraite déjà et ils étaient professeurs des écoles.
Voilà. Vos parents, instituteurs, ils ont dit quoi quand vous êtes devenu du combat libre ?
J'ai commencé à traîner dans les compétitions d'arts martiaux à 12 ans. Alors bon, l'un dans l'autre, pour eux, ça a resté plus ou moins la même chose, quoi. Hein. Bon, les premières fois quand même, bon, ils se sont peut-être dit, ah ben tiens, c'est nouveau ton truc là, mais fais gaffe quand même, quoi. on sait qu'on joue le jeu, quoi. On se dit bon ben je vais aller me battre, je vais prendre des coups, je le sais. Donc à partir de là, on démystifie le truc de prendre un coup. Hein. Prendre un coup, c'est pas. Après on n'y pense même plus à ça. C'est pas ça. Le plus difficile après, c'est gérer ben, la défaite, gérer. Le regard des autres, ou c'est ça qui est vraiment difficile. Ou...
Le regard des autres ?
Ouais, des fois le regard des autres, parce que on combat tous pour des raisons différentes. Il y en a qui combattent parce qu'ils aiment ça, il y en a qui combattent parce qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose, il y en a qui combattent parce qu'ils ont besoin de montrer aux autres qui ils sont. Non, mais c'est un peu l'apanage des on va dire des hommes forts quand même, parce que des gars qui vont dans une cage se battre, il n'y a pas trop de règles, souvent ce sont des gens musclés. Je veux dire, vous savez, on n'est que des êtres humains finalement. On l'oublie peut-être un peu trop dans notre société, mais il y a peut-être 1000 ans de ça, ou 2000 ans, ou 10 000 ans de ça, ben, l'homme qui ramenait le plus de viande à la maison, qui avait tué le plus de bisons, ben, c'était celui qui était le plus adulé par sa tribu. Ben, là, c'est un peu pareil. Celui qui sait bien se battre, celui qui est un grand combattant, ben, il est adulé par pas mal de gens, quoi.
Voilà, lui c'est James, vous avez compris. C'est le manager, c'est le coach, et les deux gars qui vont... se battre dans quelques instants, c'est Bruno et Driss. Hein ?
Ça y est, Bruno a retrouvé la parole. Et le premier mot qu'il a dit, c'est McDo. Parce qu'on passe à côté d'un McDonald's. Et il a retrouvé le sourire et une couleur de peau un peu plus normale et moins cadavérique.
Là, il sait sourire.
Hop, on rentre dans l'hôtel.
C'est un hôtel simple, normal.
Ça fait 29 pounds la chambre la nuit.
Mmh. 45 euros.
Ouais, 30-35 je crois.
Ouais, c'est ça.
Vous dormez tous dans une chambre séparée ?
Non, non, on va dormir ensemble.
Tous les trois ensemble ?
Je pense, ouais.
Dans le même lit ?
Ça, c'est un petit show, on s'en doutait. Hein. Les petits shows, ils ont pas d'argent, donc ils restreignent leur budget. Hein. On le savait. Hein.
Oh, Bruno.
Hein ?
Comment vous vous sentiez, toi ?
Et comment est-ce que vous ne bougez pas pendant un jour, quoi ?
Il a commencé, en fait, la préparation à 84-85 kilos quand il a commencé la préparation. Donc, on savait que ça allait être quand même assez difficile. Donc,
9 kilos de perdu. Parce que la préparation, elle a commencé il y a 3 semaines, c'est ça, hein ?
Ah ouais, parce qu'il y a mon anniversaire, ben, donc j'ai fait un choix stratégique.
Vous avez fêté vos quel âge ?
30 ans.
Oh, alors ?
Ça y est,
on rentre dans la chambre. Ouh, mais votre chambre, elle est toute glacée.
Bon, c'est la première fois quand même qu'on a une chambre aussi petite.
Là, vous avez un lit matrimonial. C'est qui dort là, dans le lit pour le couple ?
C'est
le couple de coach.
C'est les coachs. On a l'habitude de dormir. Ah, ça dépend. Hein. Des fois, on n'a pas le choix.
Présentez-vous.
Youssef, coach et élève de James Scavo.
Donc le deuxième coach, on a rejoint Glasgow. Vous faites quoi, Youssef, à Avignon ?
Je travaille à la police municipale d'Avignon. Et je fais le boulot de policier dans les bureaux. Donc téléphone, radio, vidéo.
Et vos copains policiers, ils le savent ? Qu'en même temps, vous faites du combat libre ?
Oui, ils le savent, ouais. Dans la police, quand on fait de la prévention, ben, on n'a pas besoin de sport de combat. Mais quand on fait de la répression, ben, on est obligé de savoir faire au minimum une clé ou maîtriser quelqu'un au sol, quoi. Pour menotter l'individu, par exemple. Je pense qu'il faut un minimum de sport de combat, enfin, du self-défense, quoi.
Voilà. C'est comment Glasgow, alors ?
Vieille et jeune ville à la fois. C'est-à-dire vieille dans le sens où les bâtiments sont vieux, les vieux monuments à visiter, etc. Mais les habitants sont, pour la plupart, jeunes.
Bruno, il n'est pas encore vraiment là à point. Hein.
Mais non, tant qu'il n'a pas remangé des glucides, il ne va pas être...
Tant qu'il ne recharge pas, c'est clair qu'après, on n'a pas envie de réfléchir. Parce qu'il y a une seule chose, comme il dit James, c'est de recharger, quoi.
Là, il va un peu dire un peu n'importe quoi. Ouais. Il sera plus.
On va aller dîner, peut-être.
Ouais, il est un peu fatigué, je pense qu'il a besoin
on va aller manger.
Make déjeuner, tranquille.
Ça va mieux qu'hier, hein, j'ai l'impression.
Oui, ouais, ouais, beaucoup mieux. Ouais.
Comparé aux 3 semaines de régime, comparé au nombre d'heures d'entraînement, tout ça, c'est pas pour un jour que ça...
Vous avez combien de temps que vous combattez ?
4 ans. Je pense que c'est l'aboutissement des sports de combat. Enfin, quand on fait un sport de combat, c'est bien beau de gagner des ceintures, mais s'il n'y a pas vraiment de confrontation, c'est jamais bon année.
C'est quoi votre tactique quand vous êtes dans la cage ?
Amener au sol, et au sol, bah, taper, et s'il fait une connerie, le soumettre.
Le soumettre, ça veut dire ?
Bah, l'étrangler ou lui tordre le bras, quoi. Voilà.
Ah, mais c'est radical. Hein.
Ouais, non, mais c'est le sport, quoi.
Ça apporte quoi, je sais pas, on est fiers, enfin...
Quand on gagne un combat, la sensation, il y a tout qui peut s'arrêter, c'est pas grave. Ouais. Vous êtes le plus fort du monde, le plus beau du monde, là, c'est...
Et justement, c'est bon, alors?
Ah oui, c'est super bon, ouais. Ouais. On survole tout, quoi. C'est beaucoup de sacrifices, que quand vous arrivez au but, ben voilà, quoi, c'est vraiment l'extase.
Là, par exemple, vous allez gagner combien, à peu près, pour ce combat?
500 à plus, quoi. Après, il y a ceux qui combattent à l'UFC qui sont payés plusieurs millions, quoi. Enfin, nous, on n'est pas encore. Enfin, là, grâce au combat libre, je suis parti, dans l'année, je suis parti 4 fois de France. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde, quoi.
Et vous, 500 euros, ça représente quoi sur ce que vous avez par mois?
Ouais, c'est ce que je gagne par mois, à peu près. Je touche les rémis, moi.
Ça veut dire que là, en 3 jours, vous allez gagner ce que vous gagnez en un mois?
Non. Parce que là, il y a plein de frais d'à côté. J'ai acheté des produits, j'ai acheté des vitamines, j'ai acheté plein de trucs qui m'ont fait dépenser largement plus de 500 euros.
Et vous avez des enfants?
Non, pas d'enfants.
Une femme?
Oui, une femme.
Vous l'appelez, vous, avant le combat? Vous appelez vos parents ou ils vous appellent?
Non. Je coupe le portable, je n'ai plus de nouvelles du monde extérieur, quoi. Enfin, vous verrez tout à l'heure, il y a une certaine tension, c'est... La fin de l'échéance, alors bon, ben, on se pose des questions des fois. Ou...
Vous posez quoi comme question par exemple? Je pourrais pas vous le poser tout à l'heure.
Moi je m'en pose pas. Moi je m'en pose pas. Je suis passé une grosse erreur pour vous poser des questions. C'est les autres combattants qui s'en posent.
500, oui, vous avez bien entendu, 500 euros pour ce combat qu'on va assister. Et des semaines d'entraînement. Voilà ce qu'il y a dans la tête et dans la vie de ces gars que vous voyez de temps en temps, vous tombez sur une chaîne de télé avec ces lutteurs, qui sont-ils? Alors il y a ceux qui, effectivement, luttent dans le cadre de l'Ultimate Fighting Championship, là, UFC, et là c'est organisé, c'est le grand show, c'est les télés, c'est le grand business, et puis il y a ces combats comme celui auquel on va assister avec ces deux garçons qui sont venus à Glasgow, en Écosse. Pourquoi? Parce que ce type de combat libre est interdit en France.
On attend le petit déjeuner. Et là, il est quelle heure?
11h30.
Et le combat, il est à quelle heure ce soir?
Bon, vers 8h, je pense.
Et là, cet après-midi, vous allez faire quoi?
Ben, je vais un peu visiter et je vais me reposer.
Vos parents, ils s'inquiètent?
Non. Ma mère m'a appelé tout à l'heure, enfin hier. Mais ça va, quoi. Je me demande si je suis prêt, voilà. Alors ma mère, elle est inspecteur divisionnaire du Trésor public. Et mon père, il est à la retraite.
Il faisait
quoi? Cariste, il faisait. Moi, j'ai eu une grave maladie quand j'étais petit. Et après, j'ai plus le droit de faire du sport. Même le foot, j'avais le droit à plus rien à faire, quoi. Et voilà, quoi. Après, ben, une fois que j'ai eu 18 ans, c'est bon, hein, je fais ce que je veux. Donc, j'ai fait de la boxe thaï. J'ai passé un CAP de vendeur, ça me plaisait pas, donc je dis ouais, je vais faire maître chien. Mais bon, si je peux pas le faire, c'est un métier à la con, ça.
C'est un métier à
la con? Ah oui, ça, ouais. Vous devez travailler, d'un coup, vous devez plus travailler. Après, vous travaillez pas, on vous appelle une heure avant pour aller à tel endroit. Il n'y a pas de reconnaissance.
Est-ce que j'ai eu un boulot à un moment donné où vous aviez l'impression qu'il y avait un peu de reconnaissance?
J'ai pas fait des boulots super intéressants, donc voilà. Et j'ai fait cariste après.
Comme votre père.
C'était pas une... c'est pas une vocation. Mais avant, c'était très bien payé. faisait que chariste. Mon père avant il était payé 10 ou 15 000 francs. Donc ça faisait. Il faisait que chariste. À la fin de sa carrière, il était payé 1000 euros. Il fallait qu'il fasse chariste, manutentionnaire. Ça, c'est deux fois moins, deux, trois fois moins. Maintenant, ouais, ils nous prennent pour des cons. Maintenant, c'est payer le SMIG, c'est des heures à la con. Ils font rien pour intéresser les gens vraiment au travail. Quoi. Je vous repose la question. Enfin, c'est quoi qui vous gagnerait, vous? Maintenant, il y a 3-4 mecs qui veulent votre place. Donc, si vous n'êtes pas content de votre sort, ben, tu dégages. Hein, voilà, quoi. Lui, ça s'en fout, le patron. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des sous. Hein. C'est de notre personne, il s'en fout. Hein. Là, je donne des cours chez Samy et James.
Des cours de quoi? De combat libre?
Oui, de combat libre, oui. Donc, voilà, l'année dernière, il y a eu des élèves à moi qui ont gagné quelque chose en grappling. Ouais, ben, j'étais content. Mais. Je pense qu'il y a eu une certaine reconnaissance pour eux, par rapport à moi.
Vous avez un surnom dans le combat?
Ouais, c'est Bob l'éponge.
Bob l'éponge?
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Vous avez pris des coups, vous les encaissez?
Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est, ben une fois, je me suis pris une grosse cuite. Hein, et voilà, du coup, ben, on m'a dit que j'étais une éponge. Voilà, après, c'est transformé en Bob l'éponge.
Et dites-moi de faire des combats libres, ça, est-ce que ça marche mieux avec des filles ou pas?
Ah non. Non, vous avez les oreilles. Ça fait moins.
Est-ce que, ah oui, parce que ça j'ai remarqué aussi, James, il a la même oreille que vous là.
Ouais.
Sur le côté gauche, parce que vous avez des oreilles, comment on peut les décrire? Parce que
les oreilles en chou, comme les rugbyman, les oreilles en chou. Ouais. Ben à force de se frotter, les enfin, l'oreille, voilà. Après il y a du sang qui se met entre et le sang qui se coagule et. Ça fait les oreilles de chou.
Préparation au combat. Il y a une métamorphose, il y a une transfiguration avant le combat. Oui, 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 oui. Je suis tout à fait sérieux, comme le prêtre qui va faire l'office, comme la prostituée qui s'habille, la vestale qui s'habille autrement et qui devient quelqu'un d'autre. Oui, oui, tout à fait. Il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de grave, il y a quelque chose de souvent... silencieux, un recueillement dans ce cérémonial, même là, dans cette chambre d'hôtel, d'un petit hôtel vraiment pas cher, de Glasgow, où ces garçons se préparent au combat.
Alors là, Driss a essayé un t-shirt, et James le prend en photo avec le t-shirt.
C'est histoire de voir si ça lui va bien ou pas.
Il n'y a pas de miroir?
Il ira voir tout à l'heure après dans le miroir. Déjà, ils prennent une photo. Ils se font leur petite séance photo, voir si ça va ou pas.
Et là, on regarde un t-shirt où il y avait écrit donc Fighting, Souls, Everything.
Everything, ouais.
Le combat, c'est le problème.
Voilà, c'est que quand on combat, quand on s'entraîne, tout ça, ben, on a l'impression que les problèmes sont à côté. Ça fait partie des phrases un peu mythiques du combat libre. Le sport, ça m'a quand même aidé à résoudre, voire peut-être même éviter les problèmes. J'aime le sentiment de pouvoir échanger des coups, en recevoir, savoir ce que c'est que de... C'est une certaine façon de souffrir, voilà. Moi, c'est une certaine façon de souffrir. C'est pour ça que le sport de combat me plaît, quoi. C'est celle-là que je veux prendre. Elles sont terribles. Elles
sont vous terribles. Arrêtez de vous disperser.
Elles sont terribles, James. Cherche pas. Celle-là, je voulais prendre en plus.
James essaye des tennis, donc voilà pourquoi on s'interrompt dans la discussion.
Je finis, après je...
Ça serait bien qu'on arrive à finir des phrases.
Comme ça, après, je vais faire mes petites courses.
Vous ne finissez jamais vos phrases.
Sans parler du côté, je dirais pas brutal, mais du côté un peu gore du sport de combat. Quoi qu'il en soit, savoir prendre des coups et savoir en donner, pour moi, c'est plus important. Parce que ça m'a aussi prouvé dans la vie que dans la vie de tous les jours, on peut perdre et on peut gagner.
C'est de la philosophie de la vie. Hein.
Ah, mais le sport et la philosophie.
Le combat, une fois qu'on est enfermé dans cette cage et qu'il n'y a plus personne pour venir vous aider, bien là on est face à soi-même, on est face à la réalité, il n'y a plus de faux semblants. L'argent n'a plus aucune valeur lorsqu'on est enfermé dans la cage, vous croyez, on ne pense pas du tout à ça. Là on ne peut plus tricher avec des apparats tels que de belles voitures ou des beaux habits ou faire penser qu'on est riche, qu'on est supérieur à telle classe de la société ou pas. Là c'est deux hommes qui s'affrontent et là on voit vraiment la nature profonde des personnes qui sont dans cette cage, quoi. Et maintenant, on a l'impression que si on n'a pas sa télé écran plat, dernier cri de 125 cm, eh ben on est un pauvre et on a loupé sa vie, quoi. C'est ça, il a raison.
Donc, vous le ressentez, enfin.
Il y a peut-être pas forcément des gens qui vont avoir eu recours à tous les efforts que nous on fait pour arriver là où on en est. Ils vont peut-être finalement moins travailler que nous, moins forcer que nous, avoir plus d'argent et le montrer. C'est un peu, on va dire, gênant. Je sais qu'actuellement, je ne roule pas sur l'or.
Vous avez par mois, vous m'avez dit le SMIC.
Ouais, je touche le SMIC par mois. Hein. Voilà, je ne roule pas sur l'or, mais je m'en contente tout à fait. Mais je sais que par contre, humainement, j'ai vécu des choses que peut-être quelqu'un qui gagne trois fois comme moi n'aura jamais vues. Humainement, je vis des aventures au quotidien. J'ai rencontré des gens avec des personnalités exceptionnelles parce que le monde du MMA, on voit quand même des gens avec des caractères forts, des caractères remarquables. Bon, il y a des cons aussi, hein, comme partout. Mais ça, je ne regrette pas.
Oh, my angel. How are you?
Youssef, cours les filles.
On m'a dit que les Écossais et les Écossaises étaient assez open.
Ah, messieurs.
Les gars, on s'est gouré, c'est pas là, hein.
Pourquoi?
L'hôtel, il est là-bas.
Partir à l'hôtel. L'hôtel, il est là-bas.
Non, mais tu peux rentrer par là aussi. T'as la carte?
Non, j'ai pas de carte, moi.
La carte de la chambre.
Vous voulez ou quoi?
T'as pas pris la carte de la chambre?
Non, c'est pas toi qui l'as prise.
Quoi, Bruno, vous avez oublié la carte de la chambre?
Je voulais pas partir sans te laisser la carte.
Ah, mais moi, je suis parti, je croyais que tu l'avais prise.
Vous allez réussir à rentrer dans la chambre sans la clé?
Oui, on va demander en bas, on va leur dire.
Ouais. Bruno, il a oublié la clé dedans?
Bruno va mettre un grand coup de pied à la porte. On y va ou quoi?
Allez, c'est bon.
I'll be collecting you guys at 6 p.m. Please be waiting in the lobby of your hotel. Ok, à 6h. À 6h, il vient nous prendre en bas de l'hôtel. Donc c'est parfait.
Hey, il est 3h.
3h30. 4h30, 5h30, ça nous laisse 2h pour nous reposer. Et après, pour préparer les affaires, une demi-heure. Quoi. Tu sais quoi? On pourra plus te parler après. Juste tu regarderas, tu observeras. Il faut vraiment leur foutre la paix après, quoi. Parce que de toute façon, tu auras leur gueule qui se ferme, ils vont plus te parler après.
Je sens que là, déjà petit à petit, là, quand même, on se rapproche de l'heure du combat, ça devient plus.
Ah, tu vas voir, hein, écoute ce que je te dis, tu vas voir.
Mais c'est clair, c'est clair.
Toi, ça va commencer
Tu nous déranges pas, mais bon, c'est. Bien.
Non, mais tu verras, plus ça va aller, plus tu auras d'attention quand même. Hein. Parce que bon, après.
Demain, la suite, ne loupez surtout pas la suite demain et la chute. Fighting solves everything. C'était un reportage de Pascal Le Pascariello et Guy Vanquil qu'on retrouvera demain. James, Bruno, Driss, Youssef, merci. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Ydvine Caron et Nicolas Lapère, Koy Nguyen et Raphaël Moutert ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot et Catherine Pinto. Comme chaque jour, attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.